Bonsoir. Franck Guéry, troisième épisode. Aujourd'hui, au centre de cette séance se trouvera la maison que Franck Guéry construit pour lui-même et sa famille en 1978 à Santa Monica. Donc je parlerai de cette maison qui a joué un rôle déterminant dans sa vie, évidemment, mais aussi dans le développement de sa pratique et je dirais aussi dans son image publique. On a dit, c'est le titre d'un bel article de Béatrice Colomina, que ce n'était pas la maison qu'avait fait Guéry, mais c'était la maison qui avait fait Guéry, la maison qu'il avait instituée en architecte novateur, en architecte iconoclaste. Alors, c'est tout à fait vrai, et on verra comment, au travers de toute une série de projets d'habitation, et en écho à ce que j'ai montré la semaine dernière, c'est-à-dire aux scénographies réalisées pour le musée du comté de Los Angeles, cette maison marque un incontestable seuil. Mais je voudrais quand même revenir à un article qui est publié deux années avant qu'il n'achève sa résidence de Santa Monica, qui montre qu'avant même de la construire, l'image de Guéry comme celle d'un architecte assez particulier, qui cassait les règles, qui cassait les normes, commençait à filtrer, pas simplement dans la presse locale, dans la presse de Californie du Sud, mais également dans la presse américaine. Et c'est un article de l'Architectural Record, de la revue très officielle publiée à Washington, qui en fait foi, un article dans lequel on voit apparaître, vous les reconnaissez à droite, la maison et l'atelier de Ron Davis à Malibu, ou bien la grange de San Juan Capistrano. Guéry serait à la recherche d'une architecture qui serait hors des règles, d'une architecture sans règles. Et dans cet article, il s'en explique, c'est une de ses premières déclarations sur l'architecture différente qu'il s'efforce de faire. Il s'en explique ainsi, je cite, « Je cherche dans l'œuvre des artistes et j'utilise l'art comme moyen d'inspiration. J'essaye de me débarrasser, et les autres membres de l'agence avec moi, du poids de la culture et à chercher de nouvelles voies pour approcher le travail. Je veux pratiquer une grande ouverture. Il n'y a pas de règles. Rien n'est bien ou mal. Je suis dans la confusion et je ne sais pas décider ce qui est laid et ce qui est beau. Les buildings, les bâtiments deviennent obsolescents, s'usent, et donc les critères individuels ne sont pas la question. Je pense qu'un architecte devrait répondre au terrain et au budget, mais devrait pouvoir créer un espace flexible et ouvert à tous les usages. Autre affirmation qui éclaire ce que l'on va voir aujourd'hui et ce que l'on a vu pour une part la dernière fois, mes projets visent à une structure minimale, j'en définis simplement les lignes ou les murs extérieurs et je laisse l'usager, c'est ce qui se passe à la maison de Ron Davis, je laisse l'usager définir son propre espace et en faire une partie intime de lui-même de façon à ce qu'il développe une relation avec l'architecture. Cette relation peut être totalement différente de la personne qui est à côté de lui ou qui est dans le couloir à côté de lui ou plus loin sur la rue, ou celle du prochain utilisateur de la construction. De ce point de vue aussi, il est important d'imaginer un espace flexible. Alors cette notion de flexibilité, elle est importante moins dans les espaces domestiques que l'on va voir que dans le registre par lequel je voudrais commencer aujourd'hui à parler de son travail de la fin des années 60 et du début des années 70, c'est-à-dire les projets commerciaux. Guéry, je vous rappelle qu'il a pendant de longues années travaillé dans l'agence de Victor Groen à construire des centres commerciaux, des ensembles urbains centrés sur le commerce. Il vient de cette culture et il la développe à sa manière avec quelques projets tout à fait important. Le premier est ce magasin de Joseph Magnin, qui est une chaîne de magasins essentiellement de confection basée à San Francisco depuis le début du XXe siècle. Cette entreprise avait beaucoup de filiales en Californie et au Nevada et les avait fait concevoir par, les avait fait projeter par Rudy Baumfeld. Rudy Baumfeld, le bras droit de Victor Groen, est celui avec qui Gary affirme avoir tout appris de l'aménagement intérieur. C'est par l'intermédiaire de Baumfeld et de l'ingénieur Edgardo Contini, autre ancien de chez Groen, que Gary obtient cette commande pour Magnin. Et vous voyez ici quelques éléments des maquettes d'études, quelques maquettes d'études de ce magasin, qui a une façade, c'est un magasin autonome, mais il est par derrière intégré à l'intérieur, voilà cette façade, à l'intérieur d'un des plus grands centres commerciaux, peut-être du plus grand centre commercial de l'Ouest américain. Gary se pose, vous vous souvenez des premiers espaces commerciaux, les magasins de joaillerie de Kay Jewelers, vu la semaine dernière. Gary déclare à l'époque avoir été préoccupé des moyens qui étaient dépensés sur les détails en tech ou en chaîne, sur les éléments en verre et les éclairages. Dans le cadre d'un marché, ce marché de la mode qui était un marché très, très capricieux. Il était préoccupé de voir que ces bâtiments, les bâtiments des centres commerciaux dans lesquels se situe son projet, étaient statiques. C'était moins l'architecture que les matériaux que nous utilisions. J'imagine maintenant pouvoir utiliser ces matériaux d'une manière différente. Alors, Gary va travailler à propos, dans le cadre de ce programme, pour ce centre commercial, à casser la logique fragmentaire d'un grand magasin avec toutes ses entités, tous ses rayons, et à essayer de créer un espace unifié dans lequel des systèmes d'éclairage intégrés, de signalétique intégrée, vont rompre avec l'ambiance de hangar industriel, avec les réseaux apparents qui étaient celles de la plupart des grands magasins de cette période. Voici quelques vues intérieures de cet espace. Gary écrit l'encombrement visuel était un problème de très grande importance. La profusion des couleurs, des textures et des objets intrusifs, tous en compétition avec la marchandise. Très intéressant de voir que Gary, qui vient d'un background commercial, sa maman était avait été chef de rayon de différents magasins, donc il avait grandi dans les magasins, qu'il était attaché à ce que le magasin soit comme le musée était là pour célébrer les œuvres d'art, que le magasin ne soit pas une architecture en soi, mais soit au service de la marchandise. Cette expérience est vraiment tout à fait décisive pour la suite. Nous nous sommes aperçus que cet encombrement visuel valait aussi pour les éléments de l'architecture et les éléments décoratifs. Les réseaux et les câbles étaient laissés apparents, des systèmes de présentation inadéquats aboutissaient à un entassement complètement chaotique des marchandises dans des vitrines. La structure rigide des départements était un autre problème. Les départements manquaient, les sections du magasin manquaient de flexibilité décorative de façon à répondre aux modes changeantes et les techniques de présentation utilisées demandaient un travail très lourd et très absorbant pour les changer à l'occasion des ventes saisonnières ou des fêtes. Donc, Gary prend en charge le thème du changement, le thème de la variation des espaces dans le temps, et il le fait à partir d'un langage très simple dans lequel, vous le voyez, il cache les réseaux, crée une atmosphère blanche et il travaille énormément sur les éclairages, notamment les éclairages indirects, sur les circulations, par exemple la circulation du grand hall de ce magasin qui devient se développant autour du restaurant un lieu de rencontre et d'observation mutuelle de la clientèle. J'utilise un exemple volontairement inadéquat et excessif, comme l'escalier du Grand Opéra de Paris. C'est autour de l'escalier que tout se joue. Et surtout, il travaille à certains systèmes intégrateurs. notamment celui-ci dont je vais parler dans un moment. Le terme qu'utilise Gehry pour faire ce projet est le terme de théâtralité. Il s'intéresse aux éclairages, à l'idée de créer donc une architecture qui serait la toile de fond et dans laquelle les produits en vente seraient véritablement les vedettes. Je voulais créer un espace neutre et fort, une toile de fond, même si je pensais que l'architecture des formes pouvait être compliquée, à partir du moment où elle opérait à une échelle différente de celle des produits ou des visiteurs. Donc, c'est une première considération, l'architecture comme une architecture, je dirais, modeste, dans l'arrière-plan, et une architecture au service du changement. La mode, écrit encore Gehry, tous ces textes sont des déclarations qu'il fait non pas dans les revues d'architecture, mais dans des revues de commerce, dans des revues de marketing. Et donc, il insiste aussi sur le changement. La mode n'est pas statique, elle est changeante. C'est pourquoi nous avons imaginé un système d'éclairage caché. Nous avons utilisé de l'éclairage industriel qui n'était pas cher. Les couleurs de la lumière peuvent changer. Ainsi, tout le magasin peut devenir rose pour la Saint-Valentin. Nous avons aussi des graphismes qui changent. Nous sommes partis de l'idée que le magasin pouvait complètement changer son atmosphère à partir de la modification de l'éclairage et des systèmes graphiques. Donc, ici, on voit apparaître l'idée d'un magasin qui devient une destination, comme on dit dans l'industrie touristique. La visite du magasin devient une expérience en soi. Ce qui m'amène évidemment de façon abusive à rapprocher cette architecture de celle que Walter Benjamin avait découvert dans le spectacle des grands magasins parisiens du XIXe siècle. Benjamin écrivait que le magasin était la dernière promenade du flâneur, ce qui prend une certaine saveur dans une ville où la flânerie est automobile, comme Los Angeles. L'élément fondamental, le plus original de ce travail, c'est ce que Gehry appellera les arbres, c'est-à-dire des éléments qui intègrent la présentation des objets, des marchandises, l'éclairage, la signalétique et l'éclairage indirect projeté vers le plafond. Donc c'est au travers de cet élément architectural qu'il structure le magasin. Pour Magnin, toujours, Gehry réalisera un autre projet à San José, plus au nord en Californie, un magasin à un seul étage dans lequel il va s'attacher, comme le montrent ses dessins, à la circulation entre les différentes sections, comme il l'avait fait de manière extrêmement proche, en fait. Vous vous en souvenez sans doute à propos des expositions du musée du comté de Los Angeles. L'accent ici est aussi mis sur la flexibilité. Le projet, écrit Gehry, commence avec le poste de travail individuel et la nécessité pour chaque employé d'être capable de contrôler son environnement personnel au travers de la manipulation de la lumière, de la manipulation des ambiances colorées. Voici un dessin d'exécution qui nous montre comment le travail s'est fait de façon extrêmement minutieuse sur ces arbres, l'intégration des cintres dans une section consacrée aux vêtements, des lumières, encore une fois, de tous les systèmes d'information, et la relation entre tout cela et l'espace environnant dans lequel les réseaux sont enfouis. Donc, ces projets seront tout à fait favorablement accueillis par la presse et donneront de Gehry l'image de quelqu'un qui est extrêmement sérieux dans ses relations avec les clients. C'est ainsi qu'il va rencontrer une figure très importante de l'urbanisme américain des années 60-70, James Rouse, qui est un promoteur basé essentiellement dans le Maryland. James Rouse est un promoteur important parce qu'il va effectuer le programme que Victor Grün avait énoncé à la fin de sa carrière américaine, avant de retourner à Vienne, Grün, le fondateur du shopping center, du centre commercial isolé sur un lac de bitume, avait préconisé le retour du commerce en ville et l'utilisation du commerce pour réanimer les centres-villes américains qui étaient déjà en crise. Et c'est ce que met en évidence, par exemple, la couverture de Time Magazine. Le grand projet de Rouse étant à ce moment-là Faneuil Hall à Boston, qui a été une mesure très forte pour faire revenir la chalandise dans les espaces du port de Boston. Gary va travailler pendant une quinzaine d'années, donc à partir de 1965, pour ce promoteur éclairé. Rouse est en particulier engagé dans la création de villes nouvelles privées. Ce ne sont plus les villes nouvelles, les Green Belt Cities du New Deal de Roosevelt. Les villes nouvelles américaines des années 60-70 sont pour l'essentiel des entreprises privées, des grandes entreprises de promotion. Et Gary, pour Rouse et d'autres promoteurs, on en verra d'autres exemples, a été très engagé dans beaucoup de projets d'aménagement. Alors pour Rouse, il est recruté par Rouse initialement pour travailler dans une ville nouvelle dénommée Columbia, dans le Maryland, et se voit offrir le poste d'architecte en chef, notamment parce qu'un de ses associés, un ancien de l'agence de Grün, travaille déjà pour Rouse. Gary refuse de déménager dans le Maryland, et pensant à juste titre qu'il a encore beaucoup de choses à faire à Los Angeles, et il obtient donc des commandes isolées. Cette première commande pour le centre de réception, le centre d'accueil de Columbia, qui est le lieu où sont vendus les appartements, où est présentée une exposition sur la ville nouvelle. C'est un premier projet, avec un très grand toit, une forme que l'on trouvera dans d'autres ensembles d'autres édifices publics de cette période. Et avec l'idée que sous ce grand toit, eh bien, ce programme peut changer, une fois les appartements vendus, peut devenir un espèce de centre culturel pour la ville. Ce projet très, très ambitieux, très, très monumental est abandonné au profit d'un projet plus modeste qui est réalisé. Et vous voyez ici Gary travailler avec des formes qui sont celles qu'il a déjà expérimentées dans certaines constructions de Los Angeles. J'insiste ici sur l'élément fondamental de ce bâtiment situé au bord d'un lac, qui est l'arcade, la galerie vitrée qui en forme l'axe et qui permet de distribuer lieux d'exposition, bureaux de vente et autres locaux. Donc un projet qui était initialement pensé en acier, qui va être réalisé en béton et qui ne marque pas une rupture fondamentale avec l'architecture de ce moment, mais qui révèle l'intérêt de Gary et de ses associés, Walsh et O'Malley, qui est surtout l'architecte d'opération, pour des formes de toiture un peu complexes comme celles que certains, je pense à John Lautner, avaient développées à Los Angeles. Je reviendrai sur un des projets importants réalisés pour Rouse, qui est un pavillon de musique en plein air, extrêmement important dans la rencontre de Gary avec la musique. Mais je voulais aujourd'hui parler du siège social de Rouse, construit également à Columbia, Maryland, un immeuble de bureaux qui ressemble plutôt au grand restaurant d'un village de vacances et qui est un bâtiment pour lequel Gary va mettre en œuvre l'intelligence des espaces extérieurs déployés à propos du projet des magasins de Magnin. Donc voilà, voici l'extérieur de ce bâtiment dans les terrains boisés de Columbia, Maryland, et voici une des maquettes d'études. Projet très peu publié et discuté récemment, je le trouve tout à fait important. Pourquoi ? À la fois à cause de la dimension modulaire du projet. Vous voyez ici cette maquette d'étude avec les circulations verticales et les blocs des bureaux qui sont assemblés selon une sorte de matrice qui me fait penser, Gary ne m'a pas démenti en me disant qu'il connaissait bien ce projet, à celui que construit au même moment Herman Herzberger aux Pays-Bas, ce grand ensemble de bureaux pour une compagnie d'assurance, qui est un projet dans lequel les entités modulaires sont séparées par une trame de circulation, comme ici. À l'intérieur, on ne retrouve pas tout à fait ce que Herzberger a réalisé à Apeldoorn, puisque Herzberger travaille dans la hauteur, mais en revanche, dans l'articulation des lieux de travail, on trouve des similitudes. Gehry refuse notamment de créer ce qui est à l'époque à la mode, c'est-à-dire le bureau paysager, écrit-il, avec ses systèmes mécaniques ou mécanicistes de panneaux muraux, mais il s'intéresse plutôt à l'articulation entre les espaces collectifs, comme Herzberger, les espaces collectifs, les petits salons, les lieux de détente, les coins de lecture et les bureaux. Donc, vous voyez ce plan qui est difficile à comprendre sur ce dessin, qui est un dessin parmi des centaines élaborés pour créer ce projet. Donc, si vous voulez, l'idée d'un bâtiment de bureau qui est en fait un lieu habitable, à tel point que les employés viennent des bureaux antérieurs en gardant leurs meubles au lieu et Rouse se dispense d'acheter des meubles chez Knoll ou autres fabricants à la mode. Autre remarque importante, comme chez Magnin, c'est l'intégration des systèmes, l'intégration des appareils d'éclairage et de la ventilation dans les plafonds et la création, on le devine ici avec ces petits carrés, de poteaux, de bornes qui apportent les alimentations électriques à un groupe de bureaux. Donc il y a un travail très rigoureux et très systématique et ingénieux dans lequel Gehry exprime à nouveau son désir tout à fait clair d'éviter l'accumulation, le clutter, l'encombrement des réseaux qui descendent du plafond. Le même genre de phobie du désordre environnant que pour Magnin. Travaille aussi sur l'éclairage et sur l'acoustique. Gehry, aujourd'hui, continue à travailler de façon extrêmement rigoureuse et attentive avec les acousticiens. Cette collaboration remonte aux années 60 et à ce projet de bureaux ainsi qu'au projet de pavillon réalisé pour Rouse. L'extérieur du bâtiment, vous le voyez ici, avec cet aspect, ces pergolas, cet aspect village de vacances, l'idée que le bâtiment puisse être envahi par la végétation. C'est apparemment Rouse qui s'inspire des constructions de Bernard Maybeck dans la région de San Francisco. Et vous voyez à nouveau la présence de ces grandes galeries vitrées. J'y reviendrai dans le prochain projet. Le bâtiment s'est révélé extrêmement flexible puisqu'il a aujourd'hui été transformé en centre commercial avec un gigantesque magasin d'alimentation. Rouse l'a déserté. Il reste un élément très fort du centre de cette ville. Ceci dit, rien ici de bouleversant. Gehry était un bon prestataire de service. On ne peut pas vraiment dire qu'il ait complètement bouleversé les règles de l'architecture des bureaux. Il va, en revanche, être tout à fait créatif et iconoclaste dans son travail sur le centre commercial de Santa Monica, Santa Monica Place, qui va l'occuper pendant une petite dizaine d'années. Ce projet est un autre projet réalisé pour Rouse, dans l'ouest de l'agglomération de Los Angeles, à un bloc, un îlot de la plage. Voici Ocean Avenue et la plage de Santa Monica. L'emplacement de cet ensemble qui prolonge un premier projet de piétonnisation entrepris par Victor Grün à la fin des années 60 déjà, et qui était un grand ratage. Je m'en souviens comme une espèce de carte postale envoyée depuis la Lune et réalisée sur le terrain. Totalement sinistre. Le projet est très différent. C'est un projet très ambitieux de création d'un ensemble initialement de commerce et de bureaux d'une très grande capacité, environ 60 000 mètres carrés, ce qui est important dans un tissu urbain serré. Gehry commence à travailler sur un projet très grand qui aurait ce serait étendu sur deux îlots. Et vous voyez ici ce projet qui assemble, qui est une espèce de mégastructure qui assemble des immeubles de bureaux, des immeubles d'habitation avec des gradins et des grands halls intérieurs, le tout autour d'un axe est-ouest qui est une grande galerie commerçante. Donc c'est un projet tout à fait important que Gehry et avec lui Rouse essayent de vendre à la collectivité locale et aux habitants de Santa Monica. Voici la maquette, ici vue depuis la plage. Voici le tunnel de l'autoroute qui arrive sur la plage. Vous voyez que ce bâtiment aurait été vraiment un très grand, un très, très important élément d'un centre devenu beaucoup plus dense. C'est bien ce qui fait problème. Santa Monica, à l'époque, est gérée et tenue par une municipalité progressiste, ce qui est assez exceptionnel aux États-Unis, qui pratique un contrôle des loyers farouche, ce qui lui sera beaucoup reproché, et qui donne la parole aux habitants qui protestent contre la destruction du tissu existant, la destruction des arbres, d'habitations modestes. Et résultat, le projet est réduit considérablement, à peu près à un tiers de son volume initial. En route, sur le chemin, Gehry avait travaillé comme le montrent ces coupes, a créé un très grand ensemble commercial. Vous le voyez ici, vous voyez un immeuble de bureau, la galerie à l'intérieur, l'empilement des parkings. C'était une sorte de millefeuille de parkings de commerce et de bureaux et d'habitation. Vous en voyez le plan ici avec au milieu la galerie. Ce projet avait été très détaillé, et notamment au travers de ces perspectives quasi commerciales qui donnaient l'image avec des espaces intérieurs d'une très grande ampleur, que je rapproche d'un livre qui venait d'être publié en Allemagne et qui sera ensuite traduit aux États-Unis, qui est le premier grand livre avec lequel le thème du passage couvert, de la galerie marchande, revient dans le débat architectural, le livre de Geist. Je ne suis pas absolument sûr que Gehry ait connu la version allemande. Je répète qu'il n'était pas encore traduit, mais il est clair qu'autour de lui, les jeunes architectes comme Craig Hodgetts ou Robert Mangurian, qui poursuivront ensuite leur vie individuelle, leur vie autonome à Los Angeles, connaissaient très bien cette architecture. Un nouveau projet est lancé dans lequel l'élément fondamental, vous en voyez ici l'emprise, donc deux grands magasins, des boutiques et des parkings assez gigantesques. Vous voyez que l'élément décisif de ce projet devient la rue intérieure. Donc il y a une sorte d'insistance à urbaniser le programme doublement, le programme du centre commercial, en le situant dans la ville et en utilisant une thématique extraite donc de l'expérience des passages couverts, de l'expérience des rues marchandes. L'ensemble est traversé par cette rue qui aboutit notamment, enfin qui passe en son centre par une espèce de plaza vitrée couverte. Beaucoup de travail est dépensé pour mettre au point cet espace intérieur. C'est un des projets complexes sur lesquels Gehry s'attache le plus au travail en maquette. Et vous voyez ici donc des représentations qui ne sont pas du tout des représentations d'un projet terminé, mais qui permettent la mise au point, notamment ici très clairement, d'un système architectural qui tend à devenir plus présent. C'est la même idée que chez Magnin, mais cette fois-ci traitée avec une ossature. L'architecture devient plus importante que la marchandise, que les enseignes, que la communication visuelle. C'est ce que ce travail permet de régler. Avec des épisodes cocasses et, je dirais, assez je ne dirais pas ridicule, mais un peu pathétique au passage, quand Gehry et son équipe essayent de reconstituer un paysage urbain fait de petites maisons à l'intérieur de cette rue. C'est sans doute ce genre de démarche qui permettra de ranger Gehry parmi les postmodernes lors de la Biennale d'architecture de 1980 à Venise. Mais rien de tout cela ne sera réalisé. C'est l'esthétique beaucoup plus, légère, géométrique et sans décor qui sera mise en œuvre. Un des éléments les plus importants de ce projet, qui en portera l'image pendant longtemps, est le grand parking situé au sud. Donc Guéry travaille à faire de ce parking non pas une structure cynique, un empilement cynique de voitures, mais un véritable objet architectural, et il le fait en essayant de définir son enveloppe. Vous voyez ici des premiers projets dans lesquels ce grand volume parallépipédique est en quelque sorte démenti par un motif de vague, sans doute l'appel du grand large, l'appel de l'océan, vague et palmier, une espèce de synthèse graphique de Santa Monica. Le travail est dans le même temps poursuivi avec une maquette sur laquelle le grillage métallique qui enveloppe le parking est travaillé de façon plastique. Et rapidement, c'est une solution graphique qui va s'imposer. Un autre dessin, à ma connaissance, comme tous les autres d'ailleurs inédits de cette façade, dans laquelle vous voyez les niveaux des voitures et l'idée de créer un motif architectural original qui aurait contrasté avec l'implacable superposition des étages. Ici, c'est un des grands magasins qui forment le centre commercial où l'entrée semble plutôt évoquer celle du petit magasin de Frank Lloyd Wright à San Francisco, du magasin Morris. Et progressivement, Gehry se résout à utiliser un langage graphique, à utiliser le langage des enseignes de Los Angeles. Le logo avec le palmier rétrécit de plus en plus et l'inscription commence à devenir l'élément dominant jusqu'à devenir l'élément unique dans d'autres dessins, comme ceci. Vous voyez que le parking est simplement annoncé par cette inscription. On peut faire l'hypothèse, à nouveau, d'un rapport avec Edward Rocher, qui avait, vous le voyez avec ce tableau en haut, avait libéré le signe de Hollywood de son ancrage géographique contre les collines des montagnes de Santa Monica, l'avait libéré, on avait fait une sorte de dénoncé nomade, donc, et autosuffisant et autoportant. Donc, compte tenu de la fréquentation régulière de Rocher dans cette période, il est possible que la rupture dans ce travail puisse lui être créditée. Voici en tout cas l'étape ultérieure dans la mise au point de la maquette, l'idée de déchirer ou de transformer, de remodeler le grillage est oubliée, et c'est avec le grillage redoublé que cette grande inscription est réalisée. Gehry, dans le même temps, travaille avec des artistes commerciaux pour essayer d'élaborer des représentations vendables de son bâtiment, notamment à l'attention des boutiquiers qui vont y situer leurs enseignes. Et vous voyez aussi que ces représentations très traditionnelles sont réalisées. Au total, de quoi s'agit-il ? Eh bien, cet ensemble commercial est un ensemble très multiple, deux grands magasins, le parking avec sa façade parlante, la partie centrale qui devient un objet urbain tout à fait complexe avec ses cafés ouverts sur la rue, et la géométrie de l'intérieur qui se projette aussi sur l'espace urbain. Voici une photo de très très proche de l'ouverture en 1981 de ce centre comme je l'ai découvert, qui dont le langage n'était pas du tout le langage des centres commerciaux américains de la période. Et ceci était encore plus vrai à l'intérieur avec, vous le voyez, ce patio central et la galerie dans laquelle les magasins reculaient, devenaient non pas secondaires, mais devenaient autonomes et distants par rapport au propos architectural d'ensemble. Donc un bâtiment extrêmement important dans le parcours que Gehry avait engagé pratiquement une vingtaine d'années plus tôt dans l'architecture commerciale. Et voici le garage tel qu'il restera debout pendant quelques décennies, puisqu'il a été totalement détruit aujourd'hui. Alors, je voudrais maintenant passer à un deuxième type de programme, qui sont les programmes domestiques, les maisons de Gehry. Nous avions laissé Gehry avec quelques immeubles à Santa Monica, avec la maison Steves, à Brentwood. Vous vous souvenez de cette maison à la fois wrightienne et japonaise. Gary fait toute une série, et en association toujours avec Greg Walsh, toute une série de projets dans les années 60 dans lesquels il s'efforce de trouver un langage en réagissant à l'architecture domestique de Los Angeles. Ici, un projet complètement inconnu, qui n'a pratiquement jamais été publié, en tout cas pas depuis très longtemps, pour un ensemble, une sorte de village de vacances dans le désert à côté de Palm Springs. Et vous voyez que cet ensemble est assez intéressant par le langage qu'il utilise. C'est une sorte de village de vacances, un langage établi peut-être déjà dans certains projets nord-africains, des bâtiments qui sont des bâtiments orthogonaux en utilisant le béton et la maçonnerie, avec ces toits en porte-à-faux qui me font irrésistiblement penser au Pueblo Ribera de Rudolf Schindler, qui est un des architectes que Gary admirait et qu'il avait fréquenté, donc cet ensemble de 1923, l'idée d'avoir ces grands toits couvrant des murs de maçonnerie, c'est une des sources. Et la deuxième, qui me semble également tout à fait importante, c'est la deuxième et la troisième, ce sont les projets de Wright pour la région de Los Angeles, en particulier le projet pour le Doheny Ranch du début des années 20 à gauche, avec ces petites constructions reliées par des murs de soutènement et des éléments d'infrastructure. Et c'est aussi, évidemment, les pueblos des Anasazi, des Indiens du sud-ouest américain. Les clients sont assez intéressants, un médecin du nom de Benson et un personnage dont vous trouvez encore les traces dans les pharmacies, Gaylord Hauser, qui était un diététicien d'origine allemande, assez charlatanesque, et dont le best-seller publié en 1950 était intitulé « Look Younger, Live Longer ». Quel beau programme! Donc, Hauser avait une maison à Palm Springs où il était souvent, où Greta Garbo venait souvent. Donc, on est là dans le monde de Hollywood et de la médecine commerciale. Et vous voyez que Gary s'intéresse beaucoup au travail de Wright. Il l'a admis lui-même. Gary a écrit bien plus tard, j'ai étudié chaque plan, chaque coupe, chaque dessin, chaque maquette, chaque bâtiment de Franklin Wright. Je suis allé à Oak Park, j'ai vu la Robbie House, on en a vu l'effet il y a deux séances. Je suis allé voir Unity Temple, j'ai étudié Taliesin Est et Taliesin Ouest, et j'ai lu tout ce que je pouvais trouver à propos de Frank Lloyd Wright. Ce qui est vrai, il dit aussi qu'il avait lu du début à la fin « In the Nature of Materials », le livre publié par Henry Russell Hitchcock en 1942. C'était un grand livre, il avait des plans et tout. J'ai mémorisé chacune des maisons. Donc, le rapport à Wright n'est pas du tout une coïncidence, il est très présent ici. Et c'est donc une architecture cubique, à la fois issue du sud-ouest américain, de Wright, et d'une certaine idée de la Méditerranée. Un deuxième projet réalisé est une maison à Bel Air, construite pour un ingénieur, Klein. C'est une maison qui avait brûlé. Elle remplace une maison de Calvin Straube, un des maîtres de Gary à USC, qui avait brûlé. Et vous retrouvez ici le travail sur les toitures qui est présent dans le centre d'accueil de Columbia. Le travail à propos de ce bâtiment est essentiellement un travail en coupe. Ici, une coupe de Gary, authentifiée. Ici, des dessins qui sont soit de lui, soit de Walsh, mais très proches, dans tous les cas, ils se ressemblent beaucoup, où l'on voit comment le travail de mise au point sur les deux espaces à double hauteur de l'intérieur est fait pour ce projet réalisé. Donc un projet longitudinal, mais dans lequel, et qui ne paye pas de mine à l'extérieur, mais dans lequel il y a, vous le voyez ici, une invention spatiale, notamment avec ces doubles mezzanines et la présence de des grands volumes verticaux des cheminées, qui étaient présents d'ailleurs dans les premiers projets d'immeubles, tel l'immeuble de Hillcrest, vu la semaine dernière. Pour moi, un projet extrêmement intéressant et totalement inconnu, jamais publié jusqu'à ce jour, pour une artiste de Los Angeles, qui s'appelait Jacqueline ou Jackie Graber, qui était une psychologue devenue artiste et qui était une amie des amis artistes de Gary, comme Irwin et Ed Moses. Ici, vous voyez sur ces dessins, qui sont des dessins de Walsh, sans doute plus que de Gary, cet étrange plan, ici, cette interprétation extraordinaire de Ronchamp de Le Corbusier, une espèce de réduction de Ronchamp avec ses contreforts, le toit débordant, l'élément vertical. Ici, une vue latérale qui nous montre comment ce toit aurait ménagé, comme à Ronchamp, des bandes éclairantes permettant d'apporter de la lumière dans l'atelier. Donc un projet tout à fait intéressant qui nous montre celui-ci et le Pueblo pour Hauser et Benson, qui nous montre ce moment, à mon avis, de grande angoisse dans l'équipe que Gary a formée avec Walsh, ce moment de recherche absolument frénétique d'un langage original. Et on voit ici, en tout cas, que le pluralisme est la règle, sans qu'il corresponde pour autant nécessairement à une demande des clients. Encore un autre exemple de ce pluralisme, c'est un projet dessiné pour les Handlers à Los Angeles. Les Handlers, ce sont les inventeurs et propriétaires de la société Mattel, ce sont les inventeurs de la poupée Barbie. Ils étaient donc très riches, comme le montre le garage. Il y a un garage pour 6 ou 7 voitures ici. Cette maison avec une très grande piscine, un séjour, des chambres et des services assez fastueux. Et vous voyez cette esquisse d'élévation qui est intéressante parce qu'elle nous renvoie encore dans une autre direction de l'architecture de Los Angeles. Dans ce cas, c'est la maison de Dodge Irving Gill à Hollywood qui est détruite désormais. Nouvelle direction aussi dans la dislocation des volumes domestiques, qu'il s'agisse d'une dislocation volontaire, d'une sorte de déconcentration de la maison, ou qu'il s'agisse d'additions qui gardent leur autonomie par rapport aux bâtiments auxquels elles sont adossées. Donc, dans la première catégorie, la fragmentation, qui va devenir un caractère très important de l'architecture de Gary dans les années 80, se manifeste par exemple dans cette petite maison pour Jim Corcoran, qui est un galeriste. Donc ça n'est pas un artiste, mais c'est quelqu'un qui travaille au contact des artistes et qui commande cette maison qui ne sera pas réalisée. Chacun des 5 volumes est un volume autonome, traité, comme vous le voyez, avec un épiderme différent, des parpaings, des shingles, du métal, de l'enduit. Vous voyez aussi que ce Corcoran était un nageur fanatique avec cette piscine, ce long bassin de piscine qui était inclus et qui devenait un élément très très fort, presque faisant écho pratiquement aux éléments fragmentaires de la maison. Un autre projet non réalisé qui me semble aussi intéressant, c'est celui d'une extension pour la maison d'un urbaniste connu chez Grun. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment à cette maison, dont vous voyez, qui est un simple bungalow, est opposée une géométrie complètement différente. Donc l'idée que l'extension n'est pas nécessairement le prolongement d'un bâtiment, mais peut prendre une forme complètement différente, commence à se manifester ici, peu avant que Gary commence à travailler sur sa maison. Extension-reconversion, une des plus importantes, c'est celle qu'il réalise pour Norton Simon, dont j'ai déjà parlé, industriel, milliardaire et collectionneur, qui vient d'épouser une actrice de Hollywood du nom de Jennifer Jones, et qui unifie sur la plage de Malibu le bungalow de Jones et le sien pour créer une nouvelle maison destinée aux hôtes et aux collections d'art indien qu'il commence à accumuler. Gary travaille de deux manières intéressantes. La première, et je vous invite à regarder cet élément, c'est la pergola. Comme si, à l'extérieur de la maison, l'ossature de bois qu'on a vu auparavant prendre déjà certaines libertés avec le bâtiment de Gemini prenait son autonomie, comme si la maison, tout d'un coup, régurgitait son ossature en bois à l'extérieur. Gary va travailler énormément sur cet élément que, apparemment, Simon n'aimera pas beaucoup. Et à l'intérieur, vous voyez ici, donc, tangentiellement à la façade vitrée de la maison ouverte sur la plage de Malibu, cette pergola. Et vous voyez qu'à l'intérieur, la maison est désossée déjà, des troncs d'arbres non écorcés sont mis en place et les collections d'art indien ou d'art antique sont disposées sous cette structure en bois rendue visible, comme c'était le cas à la maison de Ron Davis. Donc c'est une maison tout à fait fondamentale, mais qui ne renforcera pas beaucoup les liens avec Simon, avec qui ça se passera assez mal. Enfin, un autre projet qui est un projet d'extension d'une maison assez banale des années 30, vous voyez, par l'adjonction d'un volume tout à fait différent par sa géométrie, par ses ouvertures, par sa distribution. Donc, Guéry semble, dans cette phase non réalisée, celui-ci se spécialiser dans, je dirais, l'étreinte mortelle exercée sur des constructions existantes. Et c'est ce qu'il va faire pour sa propre maison, que je voudrais évoquer maintenant, donc construite dans le centre, enfin, dans la partie centrale de Santa Monica, ici, Wilshire Boulevard va vers l'océan. Cette maison se trouve à l'angle de la 22e rue et de Washington Avenue. Vous la voyez ici telle qu'elle a été, telle que Guéry se plaît à la présenter dès cette période. Elle est introduite ainsi par la revue Progressive Architecture en septembre 1978. Une maison avec des bardeaux de cèdre qui fait penser au vernaculaire de Norman Rockwell, cet illustrateur populiste américain, est recouverte par un écran en tôle ondulée, interrompue par des protubérances qui utilisent l'ossature comme si c'était une sculpture. Norman Rockwell rencontre Richard Serra. Les voisins menacent de faire un procès. Quant à Philip Johnson, qui était intéressé qui s'intéressait au travail de Guéry depuis qu'il avait visité la maison Davis, il disait « Cette maison va si loin, se démarque tellement des attentes habituelles qu'elle rend toute critique traditionnelle inopérante. » Donc il avait compris qu'il se passait quelque chose de nouveau. Guéry était très conscient, quant à lui, du fait que la construction d'une maison originale pouvait être une étape dans le renforcement de sa présence sur la scène de Los Angeles. Il dira en 1987, « Ce petit bijou qu'est une maison familiale peut être un instrument puissant pour développer les idées et se faire remarquer. » Et ce qui lui venait à l'esprit, parce qu'il connaissait très bien ces trois maisons, c'est évidemment, dans le cas de Los Angeles, la maison de Schindler, de 1922-23, la maison de Neutra, que vous voyez ici, construite une première fois dans les années 30, refaite 30 ans plus tard, et aussi la maison de Charles et Ray Eames, à laquelle je l'avais comparée dans le premier article, si je puis me citer ici, que j'avais publié sur Guéry dans AMC en 1982. Alors, que va-t-il faire avec cette maison rosâtre qu'il a acheté avec son épouse, sa nouvelle épouse Bertha, donc en 1976. Eh bien, il va commencer par essayer de la camoufler. Ici, je vous montre quelques croquis qui n'ont jamais été diffusés, notamment celui de gauche qui est intéressant, qui nous montre comment ce bungalow, dans cette première hypothèse, aurait pu être enveloppé par une espèce de sculpture en bois, en latte de bois verticale, qui me fait beaucoup penser à l'architecture d'Alvar Aalto, par exemple au pavillon d'Aalto de la Finlande, construit par Aalto à New York en 1939, que j'aurais dû l'apporter. Ici, vous voyez un autre dessin précoce. La maison existante est là. La nouvelle maison est un prisme qui ressemble un peu à une de ces râpes à fromage italiennes, posée sur le côté avec de grandes fenêtres et qui masque la maison par rapport à la rue. Une première hypothèse. Une autre, très rapidement, d'autres hypothèses plus complexes vont apparaître. On voit toujours à l'arrière-plan la maison rose. Vous voyez ici une espèce d'envahissement par des constructions adventices, par des fenêtres, par des murs, par des portes additionnelles, des escaliers, dont la matérialité n'est pas encore complètement définie. Ici, les choses deviennent plus claires et on a l'impression vraiment que Guéry s'intéresse à l'utilisation notamment du grillage, qui est un thème qu'il expérimente dans d'autres projets depuis quelques mois lorsqu'il travaille sur celui-ci. Et je voudrais vous montrer la première maquette, qui est une maquette tout à fait intéressante, faite en carton, avec du carton ondulé qui simule très très bien la tôle également ondulée, avec la présence du grillage, la charpente en bois, l'ossature désormais totalement visible, cet entassement de marche, et ici un élément de comparaison que je trouve assez éclairant, qui est la célèbre maison construite par Robert Venturi pour sa maman, en 62, à côté de Philadelphie. Regardez donc la fenêtre, cette espèce de symétrie pondérée, avec d'un côté une fenêtre en longueur et de l'autre côté un autre ensemble de formes. Ici, une petite fenêtre rectangulaire et une autre carrée qui manque à l'appel. Une symétrie qui est trompeuse chez Venturi comme chez Gehry. La symétrie de l'entrée ne correspond en aucune manière au plan, et chez Gehry, il en va de même. Cette sorte de balancement n'a pas de sens vu de l'intérieur. Le travail de recherche va continuer à se faire, et il y a beaucoup de croquis qui explorent notamment la façade sur l'avenue. Voici l'angle ici, la maison existante, donc l'hypothèse de créer de nouvelles fenêtres très, très différentes. Vous voyez notamment cette grande verrière présente dès le début, dès le début du projet un peu élaboré et qui va continuer à se déployer. Beaucoup de travail sur cette verrière qui devient un élément très, très puissant, cassant, intervenant, sortant en dehors du mur de la façade. Hein. Ici, c'est, vous voyez comment... ça c'est la façade latérale et vous voyez comment cet autre élément qui est l'élément de, utilisant le grillage se manifeste. Quant à la verrière elle-même, je la rapproche d'un autre thème wrightien puisque Gehry nous dit qu'il connaît tout de Wright. Je le prends au pied de la lettre et je pense à ce camp provisoire créé pour abriter les élèves de Wright lorsqu'il a commencé à migrer tous les ans vers l'Arizona. Vous voyez cette forme qui correspond assez à celle de la verrière ici. Gehry écrit à propos de cette verrière. Je vous passe sur toutes ces remarques. Une de ces remarques fondamentales est une remarque sur la mise à nu de la maison elle-même, dans laquelle il explique que la mise à nu de la structure de la maison, que l'on va voir par la suite, s'apparentait, je peux peut-être y venir, il a mis à nu de l'intérieur de la structure, ici par exemple, s'apparente pour Gehry à son expérience du musical, une expérience d'enfance. Il aimait beaucoup les spectacles dans lesquels tout d'un coup les acteurs se déshabillaient ou étaient déshabillés par l'intrigue. Où pensez-vous que j'ai appris tout ça? Vous connaissez ces vaudevilles où le type tire une ficelle et tous ses habits tombent. J'ai appris ça en allant dans beaucoup de spectacles assez salaces quand j'étais un gamin au Canada. Donc il y a l'aspect mise à nu de la maison. Et puis il y a l'aspect adjonction d'éléments étranges, et notamment cet élément qu'est la verrière. Gehry va insister là-dessus. La fenêtre de la cuisine, puisque c'est la cuisine, on va le voir, qui se trouve derrière cette verrière, était un véritable combat, comme vous pouvez le voir par les croquis et les dessins. C'est un propos de 1979, donc ce n'est pas une reconstruction comme il y en a beaucoup. Le problème était que cette forme puisse se lire comme un cube qui tombait de la boîte. On le voit bien ici, comme un tube qui tombait en dehors de la boîte, comme s'il essayait de s'échapper de l'enclos qui avait été mis, c'est-à-dire du mur d'enceinte, qui avait été mis autour de la vieille maison. L'idée était, venait d'une espèce de fantasme dans lequel les esprits de ce cube auraient été emprisonnés dans l'espace quand nous avions construit la nouvelle coque. Bien que je voulais que cette fenêtre ressemble à un cube, nous n'avons pas réussi à en faire un cube, effectivement. Le résultat n'est pas tout à fait l'illusion que j'avais à l'esprit, mais je ne suis pas mécontent du résultat. Donc, en tout cas, un élément tout à fait original et qui est un élément qui a une part fictionnelle et pour moi peut-être une source dans cette géométrie très simple et anguleuse de Wright. Voici l'élévation quasi définitive, pas tout à fait, cette fenêtre ne sera pas réalisée de cette façade le long de l'avenue. Vous voyez donc l'idée, cette façade qui enveloppe la maison, qui la protège, dans le même temps la révèle. C'est ça qui est intéressant, elle révèle qu'il se passe quelque chose ici, elle révèle le jardin avec ses cactus, elle révèle l'élément de langue. Donc c'est une maison qui protège et qui exhibe tout à la fois. Ce langage se poursuit à l'intérieur. Ici, nous sommes dans le jardin ou dans le backyard. Le pavillon existant a été allongé, étendu, et nous voyons à nouveau une nouvelle boîte imaginée sur la toiture qui ne sera pas réalisée. Dans le processus de construction de la maison, Gary veut travailler en maquette, et je voudrais ici évoquer cette maquette qui est extraordinaire parce qu'elle ressemble en fait au travail miniature sur le chantier. Donc il va travailler à réaliser une ossature complexe qui cette fois-ci s'est complètement émancipée. Une ossature qui se serait prolongée d'ailleurs par certains éléments ajoutés comme cette pergola qui n'a pas été réalisée. Donc on la voit sur cette axonométrie qui représente, vous le voyez maintenant complètement, la maison antérieure, l'adjonction et la verrière et toutes les relations complexes qui peuvent s'établir tangentiellement entre les deux. Je vous passe la maquette terminée, qui est une maquette de présentation qui se trouve aujourd'hui au Musée d'art décoratif de Vienne. Je passe sur les dessins de détails qui sont particulièrement élaborés, sur la construction qui est à la fois une déconstruction, je dirais une démolition partielle de la maison et la création d'une enveloppe de façon très très proche à ce qui a été expérimenté sur la maquette, pour vous montrer l'intérieur de la maison, qui donc est composé à la fois de l'intérieur de la maison initiale et de l'intérieur de cette extension qui se situe entre le trottoir à proprement parler, sur la marge de retrait de la maison, entre le trottoir et la construction initiale. Donc l'entrée est ici, les espaces de séjour, le séjour longitudinal et la cheminée ici, et la cuisine se déploie le long du mur, à tel point que Philip Johnson, toujours lui, déclarera, après avoir visité la maison et y avoir dîné, « Je ne sais pas si je dîne dans la cuisine ou sur le trottoir. » Ce qui était une parodie de ce que Frank Lloyd Wright avait dit en visitant, si je ne m'abuse, la maison de verre du même Johnson, où il avait dit « suis-je dedans ou suis-je dehors ?» Donc, voilà l'intérieur du séjour. Donc, l'ossature mise à nu, à la fois pour ce qui est des éléments porteurs horizontaux et verticaux, mais aussi ces ossatures ajoutées qui introduisent la lumière venue depuis le backyard à l'intérieur. La cuisine est cet espace tout à fait remarquable dans lequel la façade extérieure de la maison initiale devient la façade, devient un des murs de la cuisine dialoguant avec l'autre. Une autre image, ici, le bord de la cuisine et le contre-champ qui nous permet de découvrir l'effet de cette verrière. Le premier étage, je vais assez rapidement, mais le premier étage, tout ça, ceci se trouve dans les livres, le premier étage où la maison se trouve à nouveau mise à nu, et mise à nu de telle manière à utiliser certains éléments existants comme éléments en en changeant le sens. Je pense à cette fenêtre ici qui est devenue un miroir de la salle de bain. Je pense aussi au travail de Gary, qui est un travail opportuniste, s'appuyant sur les incidents de chantier. Ici, une poutre crevant le revêtement de la maison antérieure et qui permet de créer une fenêtre inattendue. Enfin, la cour avec la façade en contreplaqué laissée visible, comme le reste de la maison, et cette ouverture qui la montre depuis l'extérieur, sans la montrer tout à fait. L'ouverture, elle est cadrée sur un grand cactus et pas tout à fait sur la maison. Donc elle propose, je dirais, elle s'offre à la pulsion scopique des passants dans le même temps qu'elle la contrarie. Une maison extrêmement importante qui va véritablement être un tournant, non, pas simplement dans l'architecture de Gehry, dans celle de Los Angeles, dans l'architecture domestique américaine, qui sera identifiée en tant que telle par la presse. Gehry le rebelle, déchire sa maison et le livre de l'architecture, vous le voyez à gauche. Gehry dira, et je pense que c'est la meilleure considération conclusive que l'on peut faire à son propos, il dit dans une lettre de 1972 à un de ses collaborateurs, avec l'accent allemand, c'est l'accent de Mies van der Rohe, « I don't want to be good, I want to be interesting. » Je ne veux pas être bon, je veux être intéressant, ce qui est une parodie d'une déclaration de Mies van der Rohe en 1955 qui avait dit « I don't want to be interesting, I just want to be good. » Donc Gehry inverse cette position et revendique une architecture intéressante. Cette maison, et j'en termine par une ultime anecdote, est le cadre d'un dîner peu après son achèvement. Gehry invite à dîner Matt DeVito, qui est le directeur général de Rouse. Vous n'avez pas oublié Rouse, ce promoteur de la côte Est. Et DeVito, la maison vient d'être terminée, le centre commercial Santa Monica Place vient d'être terminé également. DeVito dit à Gehry, Frank, vous n'aimez pas beaucoup Santa Monica Place, le grand centre commercial. Non. Alors, pourquoi est-ce que vous gaspillez votre temps et votre énergie à vous battre avec des promoteurs commerciaux quand vous avez une autre mission dans votre vie ? Pourquoi ne vous mettez-vous pas à faire ce que vous savez bien faire ? Point d'interrogation. Gehry répond en effet, et le lundi suivant, il licencie 30 des 40 personnes de son agence et relance son activité autour des thèmes qui sont ceux de sa maison. Merci.